La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est le moment de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Cultiver la solidarité en entreprise, c'est possible Elisabeth grâce à Ça me regarde, c'est la solution. En tant que salarié, on peut donner du temps à une association.
Mais oui, parce qu'être attentif aux autres, ça ne concerne pas que le cercle familial ou ça ne concerne pas que le voisinage, ça concerne aussi l'entreprise et de plus en plus les salariés sont demandeurs de donner du sens à un moment ou à un autre de leur journée ou de leur mois à une association. Ainsi, pour souder une équipe, il y a de nombreuses entreprises qui proposent à leurs salariés des stages de cohésion, des escape games. Et pourquoi ne pas décider de prendre collectivement un RTT solidaire, c'est comme ça qu'on l'appelle chez Ça me regarde. Les collaborateurs partent tous le même jour en immersion au sein d'une association. Bonjour Arnaud Fima.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Ça me regarde. Ouais. L'entreprise a été créée en 2012. On va remonter dans le temps. Comment est née l'aventure de Ça me regarde?
Ben, en fin de compte, c'est né par l'expérience. J'étais avec Ségolène, la cofondatrice de l'entreprise. On était chez Manutan, une grosse PME du nord de Paris, à Gonesse. Et puis, le développement durable a tapé un peu à la porte de l'entreprise. Et l'entreprise, donc Manutan, une boîte familiale, les valeurs incarnées, très chaleureux, très humain, on va dire. Et donc, on a fait tout un tas de choses pour les collaborateurs. Il y a eu la mission handicap, il y a eu la cantine bio, il y a eu les mousseurs pour l'eau dans les toilettes. Enfin, tout ça sur le développement durable. Et puis, on avait quand même un petit caillou dans la chaussure. On se disait, c'est super bien de faire pour les collaborateurs, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour aussi le territoire, l'ancrage territorial et les associations locales? Et c'est comme ça qu'est née notre envie de sortir des murs de l'entreprise et de partir à la rencontre d'associations locales. Et on est allé à la Maison de la Solidarité de Gonesse vivre une journée qui, Ségolène et moi, a changé complètement notre vie.
Donc de là est née votre entreprise. Je précise, c'est une SCOP, une société coopérative et participative. C'est fait exprès?
Ouais, c'est fait exprès. Quand on a voulu entreprendre avec Ségolène, on s'est regardé, on s'est dit quel statut juridique en fin de compte adapté. On trouvait pas, on voulait peut-être être une association, c'était pas forcément très clair. Et puis on a listé sur un papier les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qui nous tenait vraiment à cœur. Et on s'est retourné vers des pros qui nous ont dit bah là plutôt c'est l'esprit coopératif, participatif qui nous touche. Et c'est comme ça qu'on est venu SCOP. On connaissait pas ce statut qui est vraiment super intéressant.
Alors comment ça marche si je suis entrepreneur ou si je suis salarié d'une entreprise? Comment je peux me donner mon temps, mon RTT à une association grâce à vous?
Eh bien, en fin de compte, ça me regarde, notre kiff perso, c'est les rencontres improbables à travers le domaine associatif. Et donc, on organise pour l'entreprise clé en main ce qu'on appelle des immersions solidaires à travers des journées qui sont posées. Vous parliez tout à l'heure du RTT solidaire.
Par exemple?
Ouais, le RTT solidaire, eh ben on définit avec une entreprise, soit le directeur RSE, soit le directeur RH, soit le dirigeant de l'entreprise, on définit un calendrier de journée. Ça peut être du one shot, ça peut être qu'une seule journée, ça peut être aussi un programme de journée, et on définit l'association dans laquelle les collaborateurs vont aller. Imaginons, mardi prochain, qui veut aller aider Emmaüs tous ensemble. On ne fait que du collectif, on n'est pas du tout dans des démarches de mécénat de compétences, c'est complètement autre chose, on est vraiment sur une démarche collective d'engagement.
C'est le team building utile.
Exactement. Et là, les collaborateurs posent une journée de RTT, ou alors la journée peut être donnée par l'entreprise et se retrouve à 8h30 le jeudi matin devant la communauté Emmaüs sans trop savoir ce qui va vraiment se passer.
C'est vous qui choisissez l'entreprise? L'association?
Non, alors on propose à l'entreprise, en fonction de ses engagements personnels, parce qu'il y a aussi des entreprises qui mécènent financièrement des assos, et donc ça vient compléter en disant on donne de l'argent, mais aussi on donne aussi des bras. Mmh. Et puis des fois, c'est nous qui proposons en fonction du feeling qu'on a eu avec la personne en face.
Notre coach, Mercedes Serra.
Ce que je trouve intéressant, c'est l'idée des RTT, parce que moi, chez nous, on fait beaucoup de choses de cet ordre-là. Mais on aime bien l'idée que les gens s'impliquent, c'est-à-dire que ce ne soit pas que l'entreprise qui donne de son temps. D'ailleurs, j'aimerais bien l'idée de fait d'abonder, c'est-à-dire que quand quelqu'un donne une journée de RTT, l'entreprise donne une autre journée, parce que c'est quand même une implication de chacun. Et en fait, je pense que les gens sont prêts à ça, et c'est intéressant. Et que vous proposez une formule qui est un petit peu plus courageuse que d'habitude, parce que c'est le croisement. Finalement, les gens qui veulent du sens, il faut donner de son temps aussi.
Exactement.
Et il faut trouver un système où le sens, ce n'est pas qu'une revendication qu'on fait à l'entreprise, c'est aussi une revendication qu'on fait à soi-même.
Ce qu'on a remarqué avec l'expérience qu'on a, c'est que sur 100 personnes, il y en a 15 qui sont engagés à titre personnel dans des assos qui n'ont pas besoin de l'entreprise pour faire ce type d'activité. Il y en a 15 qui pensent que l'entreprise n'a pas à se mêler du domaine associatif, que c'est complètement... Et il y en a 70 qui, au milieu, le week-end, ils ont les enfants, ils ont l'activité sportive, ils ont les courses à faire, ils ne savent pas comment s'engager. Et ils sont extrêmement reconnaissants envers l'entreprise qu'on leur donne la possibilité...
Mais c'est clé en main.
Clé en main, de manière très simple. Ils posent leur journée, ils reçoivent un roadbook, on les attend à la station du métro ou sur la place du village, et on va ensemble aider une structure associative. C'est vraiment 70% qu'on touche.
Vous allez partout aujourd'hui ?
On va partout en France, oui.
Partout en France ?
Oui, on va
combien
partout
de,
en France.
Combien d'entreprises sont engagées à vos côtés ?
Alors, on fait à peu près 150, entre 130 et 150 journées par an, d'accord, avec plus d'une centaine d'entreprises. Et on a passé depuis 8 ans aux alentours de 15 000 personnes à la moulinette des journées solidaires.
La suite, ça va être quoi ? Ça va être peut-être d'étendre ces journées ? Pourquoi pas ? Parce qu'il y a le RTT, mais il y a d'autres aussi, il y a d'autres programmes.
Alors exactement, on voulait 2020 marquer le coup en lançant ce qu'on a appelé le pont solidaire. D'accord ? Et c'est de se dire, j'aime bien les ponts du mois de mai. Le 1er mai, on va voir papy-mamie. Le 8 mai, on va visiter Barcelone. Et ben, le 15 mai matin, on propose aux collaborateurs de plein d'entreprises différentes d'aller ensemble aider des jeunes en insertion. D'accord ? Ça veut dire que c'est très simple pour le collaborateur. Ça se passe dans les locaux de l'entreprise. D'accord ? Et nous, alors on a déjà Accenture, SNCF, BNP qui sont engagés à nos côtés. Et du coup, nous, on organise une rencontre solidaire avec ces jeunes dans les locaux de l'entreprise. Et l'idée, c'est de faire un maximum d'entreprises sur cette journée du pont solidaire.
Ça s'appelle Ça me regarde, c'est la solution. Merci beaucoup d'être venu nous la présenter aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
Il est midi 58.
Europe 1.
8 millions de Français concernés par l'obésité. On en parle aujourd'hui sur Europe 1. C'est notre dossier du jour dans La France bouge. À tout de suite.
Créateur d'entreprise, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, ici vous savez qu'on aime mettre en avant vos idées, vos actions, votre engagement à petite ou à grande échelle pour vous faire découvrir aussi tous ceux qui agissent hein, pour nous aider à faire bouger la société. Vous allez voir que c'est le cas quand on parle notamment d'obésité. Bonjour Agnès Morin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale et cofondatrice de la Ligue contre l'obésité qui existe depuis 6 ans maintenant. Je le disais en préambule, hein, il y a en France 8 millions de Français qui sont concernés, c'est-à-dire 17% de la population. Et si vous avez choisi de vous impliquer, c'est parce qu'il n'y avait à l'époque aucune organisation pour porter leur voix.
Oui, effectivement, puisque l'obésité fluctue entre la maladie et le comportement et la faute. Donc, on ne sait pas, la prise en charge médicale n'est pas extraordinaire. Et la société civile, aujourd'hui, ne se bouge pas. Elle n'a pas le rôle qu'elle devrait avoir sur une maladie qui atteint quasiment 17% de la population et qui tue plus que le cancer. 180 000 personnes par an meurent d'obésité.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aider les patients, mais aussi peut-être faire changer le regard.
C'est surtout ça. Tant qu'on n'aura pas changé de paradigme, tant que les Français penseront que c'est une question de volonté, que si on est obèse, c'est parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, parce qu'on n'a pas un bon comportement, on n'arrivera pas à faire changer les choses. Et la prise en charge médicale est bloquée à ce niveau-là. Alors, ça commence, hein, 80% des Français, dans le sondage Odoxa que nous avons commandé pour cette journée, estime que les perturbateurs endocriniens sont en cause, que des gènes de l'obésité existent, que la mauvaise qualité de sommeil aussi est importante. Ils estiment ça à un grand pourcentage. Mais en même temps, ils estiment que prendre du poids peut se régler en ayant un peu de volonté.
Elisabeth, c'est effectivement le problème, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues quand on parle d'obésité.
Mais oui, et on le voit dans votre sondage au Doxa qui est sorti aujourd'hui. Alors tiens, je vais faire un petit test là autour de la table et pour nos auditeurs. C'est parti, l'obésité est avant tout due à une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique. Vrai ou faux ?
Vrai ? Ouais.
Faux.
Eh bien, c'est faux. Hein. C'est faux. Si manger équilibré et faire du sport sont excellents pour la santé, ça ne suffit pas pour prévenir et soigner l'obésité. La pollution est une cause de l'obésité. Vrai ou faux ?
Faux.
Vrai.
Ah ben voilà.
Plusieurs études internationales ont montré que respirer un air pollué dès le plus jeune âge fait prendre davantage de poids aux enfants. Il existe des gènes de l'obésité. Vrai ou faux ?
Vrai.
Faux. Vrai.
Vrai. 8 Français 150. Sur 10 en ont conscience. Les scientifiques dénombrent à ce jour plus de 400 gènes liée à l'obésité ou au surpoids. Vous vouliez ajouter peut-être ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, cette connaissance génétique, elle évolue vraiment quotidiennement. Et dans l'esprit des gens, il y a très peu d'obésité génétique. Ce qui est faux, on dit qu'il y a 60% de personnes atteintes d'obésité qui ont ces prédispositions aujourd'hui.
On dit l'obésité, en fait, on devrait dire les obésités.
Il y en a plusieurs. Exactement.
Une dernière chose, une mauvaise qualité de sommeil favorise-t-elle l'obésité ?
Oui, bien sûr.
Oui, tout à fait, c'est vrai.
Une étude importante a été faite sur 50 femmes pendant 5 ans. On avait un groupe témoin de femmes qui dormaient dans une ambiance noire, un groupe d'autres femmes qui étaient soumises à une lumière dans la chambre et à l'extérieur. Elles ont toutes pris, ce groupe-là, 5 kilos par an.
Notre coach, Mercedes Serra.
De dormir comme ça. Hein, oh là. Non, mais je trouve ça passionnant parce qu'on pense quand même qu'il y a un lien au manger. Et donc, c'est ça la volonté. C'est le lien de ce que l'on mange. Donc, il faut faire des campagnes quasiment nationales parce que si on explique aux gens, il n'y a aucune raison qu'ils ne comprennent pas. Et c'est vrai qu'on se pose ces questions et que du coup, on marque en noir les gens qui sont tombés malades parce qu'ils l'ont bien voulu. C'est un peu ça l'idée.
Ça arrange tout le monde. Et puis, la communication gouvernementale pousse vers ces préjugés.
Pourquoi ?
Puisqu'aujourd'hui, quand on parle d'obésité, on le mélange avec le surpoids et dans des campagnes « manger plus, manger moins, bouger plus », 5 fruits et légumes par jour. Donc ça vous convient, ça me convient,
mais
effectivement. Mais ça n'a strictement rien à voir avec la maladie obésité. Mais c'est inclus, on soigne l'obésité avec cette communication.
Alors, quand je disais tout à l'heure que vous faites, vous aussi, bouger les choses, c'est parce que c'est au sens propre et au sens figuré. Par exemple, vous organisez des marches aujourd'hui, un petit peu partout en France.
Aujourd'hui, on a 12 villes qui marchent, malgré la pluie, malgré le coronavirus. On espère être nombreux. Donc, Lyon, Paris, Montpellier, où est née la Ligue, Toulouse. On va essayer de faire parler un petit peu partout et de susciter l'intérêt des médias et donc du grand public sur cette maladie.
Franchement, c'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'en plus, aujourd'hui, on ne sait pas comment se nourrir. Ça devient infernal, on complique un peu quand même le chemin de la nutrition. On était plus tranquille il y a quelques années, là on est affolé. Et du coup, on a vraiment cette notion de volonté, de comment on se nourrit.
Ce qui est dramatique, qui exagère tout. Parce que mettre en avant la nutrition et la rajouter au comportement dirige les personnes, quand elles prennent du poids, vers les régimes. C'est-à-dire vers ce qu'on appelle le marché de la minceur, qui est multiplié avec des zéros partout, tous les ans. Et donc, sur ces plateformes de régime, les gens arrivent, puisqu'ils n'ont pas d'autre solution. Ils font un régime, deux régimes, trois régimes, 10 régimes. Et ils arrivent à notre centre de diagnostic en nous disant « j'ai fait 15 régimes, je fais 150 kilos ».
On reste ensemble et on continue à parler obésité aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1.
Et pour aider les patients à sortir de cette obésité, des techniques existent, mais de nouvelles sont en train de voir le jour. A tout de suite sur Europe 1.
C'est la journée mondiale de l'obésité, on en parle cet après-midi dans La France Bouge avec nos invités qui font bouger les choses. Vous vous posez des questions sur l'obésité, vous êtes concerné par cette maladie, appelez-nous au 3921, témoignez également via Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Oui, et on parle d'obésité, sauf que je le disais tout à l'heure, il faudrait presque parler des obésités parce qu'il en existe plusieurs, celles qui sont d'origine génétique et celles qui touchent les patients atteints de maladies du métabolisme. Or, l'opinion publique a tendance à mettre un peu tout le monde dans le même sac. Bonjour Georges Rawadi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur général de LNC Therapeutics, qui est basé à Bordeaux. L'idée de départ de cette entreprise était en fait de développer, quand elle a été fondée en 2010, des compléments alimentaires pour traiter les maladies cardio-métaboliques et l'obésité. Or, à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde qui travaillait sur ce sujet, ce qui a permis en fait à LNC de faire des découvertes et de déposer tout un tas de brevets.
Effectivement, en fait, LNC Therapeutics est une biotech et comme toutes les biotechs, on développe des thérapies innovantes. Ce sont en fait des thérapies qui ne font pas partie de la médecine d'aujourd'hui, mais qui feront partie, on espère, de la médecine de demain.
Et Bordeaux est un centre très actif sur la biotech.
Effectivement, on est fiers d'être à Bordeaux et dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, LNC a démarré à réfléchir à des solutions au départ nutritionnelles, innovantes pour la gestion de l'obésité, de prise de poids, mais surtout en fait pour s'attaquer au gras viscéral, parce que c'est ça un des problèmes que rencontrent les personnes obèses en termes de retrouver une ligne normale. Et à travers le développement de ces solutions nutritionnelles, en fait, on a découvert l'importance du microbiote intestinal. Et l'entreprise actuellement est focalisé exclusivement sur le développement de thérapies et non plus des solutions nutritionnelles en utilisant le microbiote intestinal.
Oui, parce que vous avez effectivement en 2007 fait basculer un petit peu l'activité pour vous orienter davantage sur la recherche de médicaments. Quand vous parlez de microbiote et de microbiome intestinal, on peut expliquer peut-être ce que c'est. C'est-à-dire c'est le milieu naturel de voilà. l'intestin qui a été mis à voilà. mal et que vous essayez de restaurer tout simplement.
En fait, d'abord le microbiote intestinal. En fait, c'est l'ensemble de micro-organismes qui sont hébergés dans notre système digestif. On parle de 100 000 milliards de bactéries qui sont hébergées. C'est un écosystème. C'est le plus gros écosystème qui existe sur la planète. Il y a plein d'autres
j'aime bien
écosystèmes.
Vous faites la comparaison avec une forêt dans laquelle il y aurait
tout
un incendie.
Tout à fait. Et en fait, c'est un écosystème qui est en équilibre et cet équilibre est fragile. On vient de citer quelques facteurs comme le stress, la fatigue, la pollution, une nutrition déséquilibrée, prise d'antibiotiques, tous ces facteurs-là contribuent à la perturbation de cet écosystème. Une fois l'écosystème est perturbé, il y a des conséquences sur notre santé et l'obésité en est un actuellement.
Et donc vous essayez d'agir sur ce qui déséquilibre cet écosystème et de rétablir cet équilibre. Comment vous faites ? Vous avez la possibilité de travailler sur des choses de manière un peu exceptionnelle, hein, parce que vous êtes les seuls à avoir des autorisations.
En fait, on est en contrôle de la propriété intellectuelle, en fait, des brevets, issus de notre recherche, mais aussi en partenariat avec des académiques. Et on cherche surtout quelles sont les bactéries de microbiote qui sont manquantes systématiquement chez les personnes qui souffrent d'obésité et de maladies métaboliques associées à l'obésité. On a identifié un certain nombre. Aujourd'hui, nous travaillons sur une bactérie spécifiquement.
Et, la Cristensenella minuta.
Voilà, c'est un nom, c'est une bactérie tout à fait nouvelle. Elle a été découverte en 2012. Et on a déjà fabriqué cette bactérie. On la fabrique sous forme orale. Ça va être des capsules qu'on va prendre oralement. Et on a des data aujourd'hui, enfin des données chez la souris qui montrent une efficacité extraordinaire. Et nous entendons démarrer les études cliniques, les essais cliniques chez l'homme cette année aux États-Unis.
Oui, pour une sortie éventuelle sur le marché d'ici 7 ans, c'est ça ?
Tout à fait. C'est à peu près la durée moyenne de développement d'un médicament, du stade de test chez l'homme jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché. Donc on attend 7 à 8 ans une mise sur le marché. Et c'est une révolution. Pourquoi ? Parce que les données que nous avons montrent qu'en fait, qu'on rétablit tout à fait le métabolisme naturel du microbiote des patients obèses. Et on pense que ça va avoir une conséquence assez importante au niveau de la pathologie.
Donc ce qu'on dit sur le microbiote depuis des années, finalement, ça part de là.
Exactement.
On n'est pas tout prix sur des facteurs d'hérédité, sur toutes les idées reçues qu'on évoquait tout à l'heure.
On y est aussi. Oui. Je pense aujourd'hui, il y a une relation entre notre hérédité et le microbiote aussi. Ah, okay. D'accord ? Donc, on sait que certains facteurs, certains gènes vont aussi influencer la composition du microbiote. Et on pense que tous les médicaments qui ont été faits jusqu'à maintenant pour l'obésité chercher à modifier les comportements, on en a parlé tout à l'heure, en contrôlant l'appétit, etc. C'est pas d'une efficacité incroyable, surtout c'est associé à des effets secondaires assez importants. Et on pense que l'origine de tout ça est une origine microbienne. Et si on peut agir, on peut agir d'une façon et sûre pour les patients et à la racine du problème.
Mercedes.
Donc
Mercedes
ça veut dire qu'on va être obligé de beaucoup parler aux médecins qui sont toujours un tout petit peu embêtés par cette maladie. Je pense qu'eux-mêmes ne la nomment pas toujours maladie et qu'il y a un vrai enjeu médical. C'est-à-dire, c'est une des choses, quand on en est à 17%, ça veut dire que c'est une des choses à regarder de très près.
Bah, on parle carrément d'épidémie. On parlait du coronavirus.
C'est une épidémie. On est dans une épidémie. L'OMS donc le coronavirus, c'est parce qu'on le découvre et on ne sait pas très bien encore ce que c'est. Mais l'obésité, ça touche 13% de la population mondiale, environ 17% de la population française. C'est une épidémie. C'est une maladie chronique reconnue par l'Organisation mondiale de la santé en 1997. Et il ne faut pas l'oublier, c'est une maladie mortelle.
Le coût de la maladie au niveau en Europe, c'est plus de 80 milliards d'euros. C'est 2 à 8% des dépenses santé qui sont consacrées à l'obésité. Aux États-Unis, les chiffres sont à peu près équivalents. Donc, c'est une vraie maladie qui est aujourd'hui sous-estimée et pour les raisons qu'on vient de citer, et on a du mal à le reconnaître.
On reste ensemble et on continue à parler obésité sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et une des clés pour gagner le combat contre l'obésité réside aussi dans la manière dont on se nourrit. On va le voir avec Slow Control. A tout de suite.
Créateur d'entreprise, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas. On parle de l'obésité, ou plutôt des obésités, cet après-midi dans La France bouge, à l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité. Pour réagir, posez vos questions, appelez-nous au 3921. Vous pouvez également nous écrire via Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Oui, il y a, et on vient de le voir, des dérèglements sur lesquels notre comportement au quotidien ne nous permet pas d'agir. Mais il y a aussi notre manière de manger qui peut avoir une répercussion sur notre poids. Bonjour Jacques Lépine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Slow Control. Vous avez en fait mis au point une fourchette qui s'allume et qui vibre quand, par exemple, on mange trop vite. Alors, c'est très sérieux, ça n'est pas du tout un gadget, parce que avaler la nourriture trop rapidement, ce n'est pas laisser le temps à l'estomac de faire son travail, tout simplement.
Oui, exactement. Il y a beaucoup de raisons métaboliques qui expliquent que ce n'est pas bon. On mange trop et on mastique pas assez.
Donc, on n'a pas la sensation de satiété.
Exactement. On a moins de goût, on perçoit moins bien les aliments, donc on est dirigé vers pas forcément les bons aliments puisqu'on perçoit mal la qualité des aliments. On les mastique moins bien, donc ça va impacter la digestion. Et en plus, on va manger trop dans un temps trop court, ce qui fait qu'on va être tenté de grignoter derrière.
Alors, cette fourchette, elle est avec nous. Il suffit d'appuyer sur le manche. Il y a un tout petit bouton qu'on va allumer, qu'on va presser pour que la fourchette se mette en marche. Et quand on mange, je vais faire semblant de manger en appuyant sur les dents de la fourchette. Là, je sens que la fourchette vibre. Ça veut dire, attention, tu manges trop vite, tu ne mâches pas assez tes aliments.
Exactement. Alors, il m'a fallu 2 ans pour trouver la ruse que pour manger, il fallait que ça passe par la bouche. Et donc, 2 ans, mais après on se dit, on a été un peu long à trouver cette ruse.
Mais bon sens, c'était bien sûr.
Mais une fois qu'on l'a trouvée, on se dit, il suffit que la fourchette détecte la bouche. Et si la bouchée supplémentaire arrive trop vite, elle avertit juste l'utilisateur qu'il est en train de manger trop vite.
Mais alors, comment vous en êtes arrivé à fabriquer cette fourchette? Comment ça se passe?
Ah, bon, il y a eu
beaucoup de recherche et développement, j'imagine.
Oui, et puis tout l'effort, ça a été de la rendre aussi simple que possible. On s'aperçoit que vraiment les utilisateurs, on était au début dans une technologie un peu high-tech et on va vraiment sur du low-tech, c'est-à-dire un outil le plus rustique possible et compréhensible. Si vous voulez, la difficulté pour ce qui est parfois mal compris, c'est que les mangeurs lents disent aux mangeurs rapides, tu n'as qu'à manger lentement, exerce ta volonté. Et les mangeurs rapides qui ont essayé de manger lentement se rendent compte qu'ils n'ont pas réussi. Mais pourquoi on ne réussit pas? C'est très simple, c'est que manger, c'est un acte répété depuis l'enfance. C'est comme quand vous rentrez chez vous et que vous posez vos clés, vous développez des automatismes.
Donc des habitudes.
Des habitudes. Et la part de ces habitudes a même été mesurée à plus de 80%. Les décisions sur l'alimentaire sont à plus de 80% dictées par les automatismes. Donc quand quelqu'un veut manger lentement et qui pense à autre chose, il n'a pas action sur ces automatismes. Et les automatismes prennent le dessus. Et la fourchette, elle aide quoi? Elle aide juste les automatismes qui ont été forgés par la vie qu'on vit aujourd'hui, la vie moderne, empêcher les automatismes rapides de se mettre en place.
Alors, vous dites au départ, moi j'ai pensé cette fourchette pour le grand public. Et finalement, vous vous êtes aperçu que c'était les CHU qui vous l'a demandé.
Oui, alors on est en réadaptation cardiaque, en diabétologie. Là, on a des études qui se lancent sur la stéatose hépatique, des choses assez pointues en orthophonie, des phoniatres pour les chanteurs avec les reflux. On est en train de faire des études sur les personnes âgées avec toutes les infections pulmonaires par les fausses routes. Bref, on s'aperçoit que le fait de manger vite, finalement, irrigue énormément de maladies. Et pour vous donner un peu l'ampleur du danger, les Japonais en 2017 ont lancé une étude sur le risque de syndrome métabolique. Donc, risque de syndrome métabolique, c'est diabète de type 2, AVC, crise cardiaque. Ils ont pris 1000 mangeurs de 50 ans et personne n'était en risque. Ils les ont remesurés à 55 ans. Les mangeurs lents, 2% passaient en risque et les mangeurs rapides, 11,5%.
Ah oui?
Ce qui a fait dire que c'était un changement de mode de vie crucial. Si vous voulez, avec l'âge, on s'aperçoit que, comme c'est un acte répété, vous répétez, vous répétez, vous répétez, et à un moment, le danger vient au point de vue santé.
Alors moi, j'étais impressionnée parce que vous dites on utilise 25 jours cette fourchette au quotidien et la perte de poids est de l'ordre de 2,5 kg.
Alors on a une étude publiée par des Hollandais, Nijmegen Université. Ils ont travaillé sur 500 personnes et donc 25 repas, simplement celui de midi. Les personnes ont perdu 2 kg en IMC 31 à la base. En
déjà,
gros, 1,80 m.
À partir de 25, c'est là où on parle d'obésité, c'est ça, hein, quand il y a un IMC de 25.
Surpoids puis obésité. Mmh.
30 25 surpoids.
Donc là, on est en obésité à 31, perte de 0,6 d'IMC. Et si vous voulez, le premier mois, avec l'utilisation de la fourchette, perte de 2 kg, et avec l'arrêt de la fourchette, c'est-à-dire que réengrammage
de nouvelles habitudes, oui.
Perte de 1,5 kg le mois suivant. C'est-à-dire que, et si vous voulez, si vous prenez Horace Fletcher, qui est à la base de toute cette théorie du manger lentement, il a perdu 32 kg au début, en augmentant 32 kg. Voilà.
Mercedes Serra, notre coach.
Bah là, c'est très bluffant. Et puis, je crois qu'on revient à des choses simples qui sont la rééducation, finalement, de l'alimentation, parce qu'on pense que c'est une évidence. L'école, on ne parle pas. Les cantines, c'est assez inquiétant. Et donc, on n'apprend pas à manger et on ne compense pas ce que les familles font naturellement, donc qui peuvent faire des choses assez étonnantes. Donc, toute cette éducation, elle est quand même très importante et à repenser pour les enfants. Et l'école devrait être un lieu, les cantines devraient être un lieu d'éducation de la nourriture.
On va continuer à débattre dans un instant de l'obésité sur Europe 1. Il est 13h37.
Europe 1.
Et on attend vos questions, Twitter, hashtag Europe 1 et le 3921 bien sûr. La France bouge avec vous. A tout de suite.
C'est la journée mondiale de l'obésité et on en parle cet après-midi dans La France bouge avec vos invités, Raphaël.
Nous sommes avec Agnès Morin, directrice générale de la Ligue contre l'obésité, avec Georges Raouadi, directeur général de LNC Therapeutics et Jacques Lépine, fondateur de Slow Control, la fourchette pour adopter naturellement le bon tempo. Notre coach, c'est Mercedes Serra, cofondatrice de l'agence BETC et présidente exécutive d'Avas Worldwide. Évidemment, à mes côtés, Elisabeth Assayagela. Tiens, j'ai une question pour vous, Elisabeth.
Oui.
Y a une étude, je crois, qui montre que la campagne est plus touchée que la ville,
oui,
par l'obésité.
C'est une étude qui m'a frappée, une étude anglaise, qui a montré que l'obésité augmente beaucoup plus rapidement. Attention, c'est beaucoup plus rapidement dans les zones rurales de la planète, hein, je ne parle pas que de la France, que dans les villes. Elle a été publiée dans la très sérieuse revue Nature. Et ils ont remarqué aussi que dans certains pays à faible et moyen revenu, les zones rurales comptent même pour 80% de la rapidité de l'augmentation des personnes atteintes d'obésité. Donc, ça contredit aussi les idées comme quoi l'obésité est intimement liée à nos modes de vie.
Qui veut répondre ?
Je pense que c'est un changement dans nos façons de consommer et dans le comportement. Et initialement, effectivement, l'obésité était focalisée.
On associe l'obésité à Coca-Cola.
Ou à la sédentarité, manger vite, etc.
Voilà.
Sauf que, surtout, je pense, le développement d'Internet, on a changé nos modes de consommation, même à la campagne. On bouge moins, on mange de plus en plus probablement d'aliments industriels qu'on arrive à commander beaucoup plus facilement.
Des aliments donc
et c'est effectivement, c'est une tendance qui est en train de se développer, mais ça appuie ce qu'on venait de dire tout à l'heure, c'est que c'est une maladie qui va toucher énormément de monde dans le monde dans les années à venir. 50% de la population probablement d'ici 2025.
En fait, il y a deux notions qui sont complexes parce qu'il y a la notion du fait que l'obésité est une maladie qui a beaucoup de raisons à l'obésité, pas uniquement le fait de manger beaucoup alimentaire, mais une autre logique aussi qui est qu'il faut apprendre à manger et qu'apprendre à manger... c'est à l'école, je suis persuadée que les petites fourchettes qui expliquent qu'on ne peut pas manger vite, mais où est-ce qu'on l'entend ça? On ne l'entend pas beaucoup. Donc il y a quand même plein de choses, et la ruralité, c'est aussi souvent des questions d'habitude. Ils ont changé de type de nourriture.
Exactement. Hein,
et le changement de type de nourriture, il est assez dangereux. Donc...
Agnès Morin.
Oui, ce qu'il faut aussi noter en ruralité et dans les banlieues, c'est le manque d'accès aux soins. les médecins ne sont pas formés, sont peu nombreux, donc on ne va pas consulter, ou on va consulter pour une comorbidité, et puis on n'est pas soigné, donc derrière, il n'y a pas de service. On est plus, je pense qu'on est plus sur le problème de l'accès aux soins et de la prise de conscience que sur les problèmes comportementaux.
Agnès Morin, vous allez très bientôt mettre en place des centres de santé innovants. Je crois que le premier est censé ouvrir au mois de septembre en Occitanie.
Oui, exactement.
Il y en a 4 autres dans la foulée qui devraient ouvrir partout sur le territoire.
Et on espère,
c'est quoi leur spécificité?
En fait, l'innovation de ces centres de santé, c'est de travailler sur le premier recours. On a bien compris que si je ne suis pas malade, donc je ne consulte pas. Et si je ne consulte pas, je grossis. Et j'arrive à des excès de chirurgie, comme vous parliez tout à l'heure, des ballons.
Oui, il y a quand même 50 000 personnes qui sont opérées par an en France.
Des capsules que l'on avale pour que ça se transforme en ballon, ballon gastrique.
Donc effectivement, on ne consulte pas. Et nous, le principe qu'on adopte dans les centres de santé, ce sont des centres généralistes. Donc, vous avez une angine, vous venez, comme dans une maison médicale classique. Ça nous permet de repérer les personnes qui ne consulteraient pas pour leur obésité, donc premièrement. Celles-là, on va les garder en file active et surtout, elles vont être amenées dans un parcours de soins avec toute une série de spécialistes qui sont affiliés à ce centre de santé et qui sont nécessaires pour la prise en charge médicale de ces patients. Et des assistantes de parcours vont les suivre, vont les appeler, vont faire en sorte que le patient reste dans ce parcours, ce qui n'est pas le cas quand on a affaire à un simple généraliste. Ça, c'est la première innovation des centres. Et la deuxième, c'est aussi que toutes les spécialités paramédicales qui sont nécessaires aujourd'hui et qui sont le seul remède, puisque les remèdes encore n'existent pas, qui sont les APA, les psys et les diététiciens ou les diététiciennes, ne sont pas pris en charge. Donc, quand on n'a pas d'argent, on ne se paye pas ces paramédicaux. Dans les centres de santé, ils seront gratuits pour les personnes atteintes d'obésité.
Alors, on a une question au 3921. On a Véronique qui nous appelle de Paris et qui dit « Ma fille se complaît dans la nourriture depuis son divorce. On a tout essayé. Le problème est avant tout psychologique et sans volonté, ça ne sera pas possible. » On peut aller vers une obésité, là, pour le coup.
Les traumatismes sont une cause majeure de l'obésité. Le stress et les traumatismes sont une cause majeure. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants qui ont été violés, par exemple, dans leur enfance, sont obèses, font partie de ces 8 millions d'obèses.
Parce que c'est une manière de se protéger.
Bien sûr.
Est-ce que tout le monde peut devenir obèse? Est-ce qu'il y a une inégalité vis-à-vis de l'obésité?
Effectivement, on peut. Vous arrêtez de bouger et vous faites que manger, vous allez devenir obèse. D'ailleurs, dans un reportage récemment sur TF1 qui m'a fait bondir, on a mélangé sur des patients obèses, on a mélangé un reportage aux États-Unis de la nouvelle prostitution qui est en train d'éclore. Ce sont des jeunes devant les réseaux sociaux, des jeunes couples où le mari fait manger la femme et la filme en train de manger tous les jours, la nuit, le jour. Il la gave véritablement. Et donc, effectivement, ces jeunes femmes deviennent obèses, évidemment.
Donc, tout le monde peut devenir obèse.
Ouais, il y a aussi
des reportages qui montrent des choses très bien. Je pense notamment à cette ville en Espagne où le maire a pris la décision de demander à toute sa commune de faire quelque chose pour justement faire changer les habitudes alimentaires. Et il avait mis une sorte de jeu en place pour que tout le monde perde du poids.
Un challenge pour fédérer.
Oui, tout le monde ne peut pas. En fait, il y a trois choses. La première, c'est que nous sommes inégaux devant la naissance. Nous avons tous un métabolisme de base qui fait que à activité égale et à comportement alimentaire égal, certains grossiront, d'autres non. Vous avez une copine sûrement qui mange plus que vous et qui grossit jamais. Tout le monde a ça autour de soi. Deux, vous avez aussi certaines personnes qui ont des dysfonctionnements physiologiques. Et ces dysfonctionnements physiologiques leur font prendre de la graisse. D'autres non. Et trois, il y a l'environnement dont on a beaucoup parlé, qui est obésogène aujourd'hui, et toutes les causes qu'on a déjà évoquées.
En tout cas, c'est un vrai sujet de santé publique. Je vous remercie à tous les trois d'être venus en parler aujourd'hui avec nous en direct sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Il est 13h47.
Europe 1.
Et on va prendre dans quelques minutes la direction de la Haute-Saône pour découvrir la fromagerie Miret. C'est l'entreprise qui va bien.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est la fromagerie Miret. Bonjour Denis Miret.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est votre grand-père qui l'a fondée. On est en 1921 à l'époque, dans votre village, en Haute-Saône. C'est Henri, son prénom, et c'est lui qui commence par transformer quelques dizaines de litres de lait en fromage. À l'époque, je crois qu'on était encore à la main, à l'écrémeuse, à la baratte, c'est ça ?
Ben c'est cela, oui. Donc, mon grand-père, Henri Miret, a créé l'entreprise en 1921, dans les caves d'une ancienne chapelle, à deux pas de Charsène, du village de Charsène. Et donc, à l'époque, il travaillait 200 litres de lait par jour, sans eau, sans électricité. C'était vraiment des conditions très rudimentaires. Et jusqu'en 1929, il est resté dans ses locaux. Ensuite, il est descendu au village de Charsène. Et aujourd'hui, on est toujours dans ce village. C'est vraiment le village de nos origines. Et tout le développement s'est fait sur ce village.
Comment est-ce qu'il a fait pour donner de l'ampleur à son entreprise? Comment est-ce qu'il est passé de 200 litres à aujourd'hui 13 000 tonnes que vous collectez?
Je pense qu'il a été visionnaire, puisque... on est dans une région, la Franche-Comté, avec ses AOP très connues, comme le Comté, le Morbier et d'autres produits. Lui, il a fait le choix de travailler sur des produits qu'il a créés lui-même. Donc, à l'époque, c'était donc le Charsenais. Et plutôt que de faire des produits basiques, il a essayé de faire des produits quand même, en montant en gamme, des produits de qualité. Il a inventé ses propres fromages. On est vraiment sur des produits, c'est de la spécialité marketée.
Alors ils sont là, d'ailleurs Mercedes s'est levée pour les voir, vous voyez, le roucoulon, l'ortolan, la cancoyotte aussi, qui est un produit franc-comtois.
C'est cela, on fabrique aussi de la cancoyotte à la marque Le Franc-comtois. C'est un produit qui est vraiment typiquement franc-comtois, puisque le berceau de la cancoyotte, c'est la Haute-Saône. Et aujourd'hui, nous avons créé donc une association avec d'autres fabricants afin d'obtenir l'IGP cancoyotte très prochainement.
Alors, votre père a pris la suite. Vous avez grandi dans ce milieu. Vous avez commencé à 20 ans. Vous êtes passé par toutes les étapes.
Mais c'est cela. Oui. Donc, derrière mon grand-père, c'est mon père et mon oncle, donc la deuxième génération qui ont repris le flambeau. Et moi, je suis arrivé donc dans l'entreprise... début 80, après sortie de l'école, puisque j'ai fait une école de laiterie, tout naturellement, puisque depuis tout petit, on peut dire que je suis tombé dans la bassine de lait. Et donc j'ai fait l'école de laiterie, ensuite je suis rentré dans l'entreprise. À l'époque, l'entreprise n'avait pas la taille d'aujourd'hui, et on a dû passer un petit peu sur tous les postes. Et en 1994, donc mon père et mon oncle se sont retirés pour la retraite, et j'ai repris la direction générale. Et on a aussi construit un nouveau site, toujours sur le village de Charsène. Alors ça, c'est vraiment quelque chose
de
particulier. C'est notre berceau. C'est un petit village de 350 habitants, mais on aurait pu partir à l'extérieur, aller en périphérie d'une grande ville. Mais là, on a voulu rester sur ce village.
Parce vous employez 185 personnes.
C'est cela.
La moitié du village.
Oui, quasiment.
On emploie 185 salariés. C'est beaucoup pour le village, mais c'est nos racines. Et je pense que c'est très intéressant de garder des emplois en milieu rural, parce que le milieu rural souffre énormément. Et le fait d'avoir dans ces petits villages reculés des entreprises dynamiques, c'est quelque chose de très important. Et ça, on en est très fiers.
Mercedes, notre coach.
Alors, comment faites-vous pour... c'est de la grande distribution. Vous travaillez avec la grande distribution pour récolter ces bons fromages.
Voilà, c'est ça. Donc, on travaille essentiellement avec la grande distribution. On est quasiment présent dans toutes les enseignes, à part le hard discount, mais sinon, on est présent dans toutes les enseignes au niveau national, avec nos marques, donc nos marques phares que sont Ortolan et Roucoulon. Et on développe aussi des marchés à l'export, parce que aujourd'hui, on peut
vous
dire
avez 10%, que... 10% à l'international, c'est ça à peu
Voilà,
près,
c'est ça. On a à peu près 10% à l'international et on croit beaucoup. Donc sur 2020, on devrait être au-delà. Puisque pour nous, l'international, c'est vraiment là qu'on a des relais de croissance. Alors on est présent aujourd'hui en priorité, bien sûr, sur l'Europe. Beaucoup l'Europe du Nord, l'Allemagne, la Scandinavie, le Royaume-Uni. Mais aussi, on fait du grand export. Et en grand export, on est sur les États-Unis, sur le Canada. On vient de développer beaucoup sur le Canada. On a un gros client. Et puis aussi sur l'Asie. On est présent au Japon depuis plus de 30 ans. Alors, c'est certes des petits volumes, mais c'est quand même signe que nos produits sont des produits de qualité et reconnus.
Produits d'une entreprise qui reste, et je le précise, toujours familiale. Parce qu'il y a certaines mauvaises langues qui disent que vous êtes avec des groupes, avec des multinationales. Ce n'est pas le cas. Vous êtes toujours indépendant.
Ce n'est pas le cas. C'est vraiment une entreprise atypique, on peut dire. Parce que donc, l'entreprise va fêter ses 100 ans l'année prochaine, en 2021. Je représente la troisième génération.
La quatrième est là, d'ailleurs.
Et la quatrième arrive derrière. Et donc, c'est une entreprise qui est toujours indépendante. Le capital... est toujours détenu par la famille, à 100% par la famille. Et le choix a été fait récemment, justement, de continuer l'aventure avec la quatrième génération. Et ça, on est très fiers de
Vous pouvez être fiers parce qu'en plus, vos emballages sont made in France. Vous collectez le lait à 25 km autour de chez vous. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus?
Ben c'est vrai, oui, c'est vrai qu'on a un rapport aussi privilégié avec nos producteurs de lait, hein, puisque tous nos producteurs sont dans un rayon moyen de 25 km. Hein, donc, tout le lait collecté est travaillé sur la fromagerie, donc c'est local. Hein, et on a même été plus loin, puisque l'année 2020, nous avons lancé un nouveau produit dans la gamme Ortolan, qui s'appelle l'Ortolan Grand Pâturage. C'est un produit très tendance, puisqu'en fait, il répond à un cahier des charges précis et qui fait partie aussi des attentes des consommateurs. C'est-à-dire que c'est du lait issu de vaches qui pâturent, hein, au minimum 180 jours par an. C'est du lait des vaches qui sont nourries avec des produits sans OGM. Mais c'est aussi une meilleure plus-value pour le producteur de lait, puisque au final, le lait sera rémunéré au minimum 400 euros pour le producteur qui sera dans cette filière.
Ce sont les produits de la fromagerie Miret. 100 ans l'année prochaine. Merci Denis Miret d'être venu nous en parler. Merci à Mercedes Serra qui était notre coach.
C'est un bonheur de finir par les très bons fromages.
Exactement, ça nous a ouvert l'appétit.
Oui, on a très faim.
Elisabeth, Céline, on se dit à demain.
À demain, Raphaël.